Et si la famille parfaite portait des collants bleus et se disputait entre deux sauvetages intergalactiques? Vous l'avez deviné, ce matin, dans la philo des super-héros, on parle des quatre fantastiques et du fait que chez eux, comme chez de nombreux personnages mythiques issus des comics, la famille est omniprésente. Alors Lise, vous qui êtes fan de ces super-héros, expliquez-nous tout.
Et oui, chez les super-héros, la famille est partout et à tout seigneur, tout honneur, on commence par les quatre fantastiques puisqu'ils sont la toute première famille de super-héros de l'histoire moderne et un cas d'école en psychologie familiale avec des super-pouvoirs. Ils ont été créés en 1961 par Stan Lee et Jack Kirby. Leur composition, c'est un couple, un frère et un copain. Le couple, c'est Reed Richards, alias Mr. Fantastique, c'est le père scientifique, celui qui réfléchit plus vite qu'il ne parle, qui oublie les anniversaires mais sauve la planète entre deux équations, brillant, élastique et parfois émotionnellement rigide. Sa femme, c'est Sue Storm, la femme invisible, et c'est bien plus que la femme du boss, c'est la colonne vertébrale émotionnelle de l'équipe. Elle est omniprésente, même si elle est invisible, elle gère les tensions, fait le lien entre les égos surchauffés et sauve le monde en douce pendant que les mecs s'expliquent. Son frère, petit frère, beau gosse, genou, flamboyant et incontrôlable, c'est Johnny Storm, la torche humaine, on l'adore, il met le feu au sens propre comme au figuré, fait des blagues et nous rappelle que l'enthousiasme aussi est un super pouvoir. Et enfin, il y a Ben Green, alias La Chose. C'est le tonton bourru, l'ami fidèle qui râle tout le temps, mais qui vous porterait sur ses épaules jusqu'au bout du monde. Derrière la carapace de pierre, un cœur en or massif. Et puis pour finir avec cette famille, il y a Franklin Richards, un bébé plus puissant qu'un trou noir, le fils de Reed et Sue. Un petit garçon blond à l'air angélique, mais avec des pouvoirs capables de réécrire la réalité. Franklin incarne le rêve et la peur de tous les parents. Avoir un enfant extraordinaire, mais dont les dons dépassent largement tout ce qu'on peut comprendre ou contrôler. Face à ce phénomène, Sue et Reed font ce que toute famille aurait fait. Ils l'aiment et lui, de son côté, leur rappelle que la famille, ça n'est pas seulement ce qu'on hérite, c'est aussi ce qu'on invente ensemble.
Et les X-Men incarnent justement une autre forme de famille créée ensemble, à savoir celle qu'on construit soi-même quand on n'est pas accepté dans sa propre famille.
Oui, car les mutants sont souvent pourchassés, discriminés, incompris, voire abandonnés, rejetés ou même persécutés par leur propre famille. Et c'est chez le professeur Xavier qu'ils trouvent refuge à l'école des jeunes mutants. Chacun y trouve sa place. Wolverine, Logan, le loup solitaire, y découvre la loyauté. Jean Grey y affronte ses démons intérieurs de phénix. Cyclope apprend à canaliser ses émotions et ses yeux laser. C'est une famille élective, pas de lien de sang ici, mais des liens du cœur, de l'engagement et un combat commun. Leur message est limpide. Même si tu es rejeté par ceux qui t'ont donné la vie, tu peux trouver une nouvelle tribu et l'aimer autant, sinon plus, que ta propre famille.
Et oui, une leçon réconfortante pour tous ceux pour qui la famille est une absence, voire un trou béant, à commencer d'ailleurs par Bruce Wayne, alias Batman, Lise.
Oui, Didier, car lui, c'est l'archétype de l'orphelin. Il perd ses parents assassinés sous ses yeux alors qu'il n'a que 8 ans, traumatisme absolu. Dans l'ombre du deuil reste tout de même une figure paternelle précieuse, Alfred, le majordome. Mentor, éducateur, infirmier, mais conseiller spirituel, Alfred est la famille de substitution de Batman, celle qu'il ne remplace pas mais qui soutient, protège et console et lui rappelle que sous le masque, il y a encore un enfant qui a besoin d'amour. Bruce Wayne devient donc le chevalier noir, le justicier de Gotham et surtout un constructeur de famille malgré lui puisqu'il adopte d'abord Dick Grayson, le premier Robin lui aussi orphelin, puis Jason Todd, Tim Drake, Damian Wayne, Cassandra, Barbara, bref, des profils différents et cabossés, mais tous rassemblés sous un même toit et pour une même cause. La Bat-Family, c'est le paradoxe vivant de Bruce Wayne, l'homme qui refuse l'amour parce qu'il en a trop manqué, finit par en donner à toute une génération. C'est lui qui devient le mentor, le père de substitution, le repère moral. Batman nous dit donc que la famille n'est pas toujours ce qui nous est donné, mais c'est aussi ce qu'on décide de bâtir à partir de nos blessures.
Et puis, on a un parcours à la fois parallèle et différent chez Peter Parker, alias Spider-Man, pour qui la famille est une cicatrice ouverte et une boussole intime.
Oui, car Peter Parker est orphelin très jeune lui aussi. Il est élevé par Tante May et l'oncle Ben, un couple de retraités modestes qu'il aime comme leur propre fils. Dans leur maison du Queens, Peter apprend le respect, le courage et la bonté avant de se faire mordre par une araignée radioactive et de devenir Spider-Man. Et là vient le drame, il laisse échapper un voleur et ce même voleur tue l'oncle Ben. C'est le point de bascule, la naissance du super-héros à jamais hanté par cette phrase. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Tante May reste avec lui, fragile mais forte. Elle devient la seule ancre émotionnelle de Peter, celle pour qui il continue même quand tout s'écroule. Et Spider-Man, c'est bien ça. Un jeune homme qui n'a presque plus de famille, mais qui se bat comme si le monde entier était sa famille. Il montre que si la famille n'est pas toujours un cocon, c'est toujours ce qui nous rend plus humains.
Et chez T'Challa, alias Black Panther, la famille est à la fois un ancrage intime, mais aussi une responsabilité nationale. Il n'est pas seulement un super-héros, il est le fils de roi, frère, protecteur, héritier d'une dynastie. Et chaque décision qu'il prend est teintée justement de ce poids familial.
Oui, son père T'Chaka a été assassiné, il hante son parcours, son petit génie de sœur est sa partenaire scientifique et morale, sa mère est une reine digne des tragédies grecques et surtout ses ancêtres, toute la lignée des Black Panthers avant lui, lui parle littéralement dans le plan astral du Wakanda. T'Challa, donc Black Panther, c'est le super-héros qui n'agit jamais en son nom propre, mais toujours au nom d'une famille, d'une lignée, d'un peuple. Il nous rappelle que notre bonheur personnel est lié intrinsèquement à la mémoire de ceux qui nous ont précédés et à la transmission et au message que nous laisserons aux générations à venir.
Et dans un autre genre de prince avec héritage lourd et famille qui te murmure à l'oreille dans des cristaux, on trouve Clark Kent, alias Superman, qui lui a deux familles, celle qu'il a perdue et celle qu'il a gagnée en arrivant sur Terre.
Oui, car sur Krypton, sa planète natale, il est Kal-El, dernier fils d'une civilisation disparue, une famille mythique morte trop tôt. Mais sur Terre, dans le Kansas, il est juste Clark, l'enfant prodige élevé par Jonathan et Martha Kent. Deux fermiers au cœur immense, sans eux, il serait devenu une arme ou un danger. Grâce à eux, il devient un héros bienveillant, ancré dans la compassion et toujours prêt à sauver le monde. Sa famille d'adoption lui apprend les valeurs humaines fondamentales, la bonté, la responsabilité, l'humilité. Et c'est ce mélange d'héritage kryptonien et d'amour terrien qui fait de lui un pont entre deux mondes. Et puis dans le genre famille de super-héros, il y a Kara Zor-El, alias Supergirl, la cousine de Superman, qui vient aussi de Krypton. Elle arrive sur Terre bien après lui, persuadée qu'elle veillera sur son petit cousin avant de découvrir avec stupeur qu'il est devenu un dieu solaire et que c'est elle qui doit s'adapter. Au lieu d'être la protectrice, elle devient l'élève. Pourtant, leur lien devient un ancrage fondamental. Clark retrouve avec elle un morceau vivant de Krypton, une mémoire affective, une langue natale, une famille de sang. Et Kara, de son côté, trouve en Clark un repère, un frère de cœur, un modèle d'intégration et d'espoir. Ensemble, ils incarnent l'idée que même à des années-lumière de chez soi, un regard familier peut suffire pour se sentir à nouveau transporté dans sa famille.
Et last but not least, pour finir, Diana Prince, alias Wonder Woman, n'échappe pas non plus à la complexité familiale.
Oui, car elle est née sans père, version divine ou sculptée dans l'argile, ça dépend des récits. Elle a été élevée sur l'île de Thémiskyra par les Amazones dans une société exclusivement féminine où sa mère, Hippolyta, est la reine, une mère surprotectrice, aimante mais sacrément stricte qui refuse de voir sa fille affronter le monde des hommes. Et comme dans toutes les familles, le conflit générationnel fait rage. Diana veut partir, sa mère veut la retenir. Ce besoin de voler de ses propres ailes seule comme un écho universel, celui du désir d'indépendance des adolescents face à l'amour maternel étouffant. Wonder Woman est donc la fille qui désobéit pour faire le bien et qui nous rappelle que s'émanciper, ça n'est pas trahir, c'est juste grandir. Et nous, dans tout ça, me direz-vous, ces héros ne sont pas que des icônes pop, je vous le répète assez. Ils sont des miroirs puissants de nos vies. Les quatre fantastiques nous rappellent qu'une famille heureuse, ça n'est pas une famille sans conflit, c'est juste une famille où on choisit de rester. Les X-Men nous montrent qu'on peut créer une famille avec ceux qui nous comprennent. Batman parle de deuil, mais aussi de reconstruction. Superman incarne l'équilibre entre nos origines et nos choix actuels. Et Wonder Woman nous enseigne que s'affranchir de sa mère, c'est parfois aussi lui rendre hommage. En conclusion, on pourrait croire que les super-héros sont des solitaires, mais non, ils sont comme nous tous des êtres en quête d'un foyer. Ils nous montrent que la vraie force, ça n'est pas de soulever une voiture d'une main ou de voler à travers les étoiles. C'est de tenir la main de quelqu'un même quand tout s'effondre. C'est de choisir encore et toujours ce qu'on aime malgré les silences et les désaccords. Le bonheur, c'est rarement un exploit solo. C'est une équipe, une tribu, des outsiders ou des orphelins, comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est des gens qui décident de rester ensemble. La preuve que la famille, on ne fait pas que la subir. On la choisit aussi souvent.